RCF. RCF, il est 19h. Le journal, Étienne Pépin.
Bonsoir à toutes et à tous, voici les titres de ce journal. Emmanuel Macron était dans le Vercors aujourd'hui pour rendre hommage aux maquisards de la Seconde Guerre mondiale, la deuxième étape des commémorations des 80 ans de la Libération. Nouveau plan de lutte contre l'immigration illégale à Mayotte, un an après le début de la première opération Wambushu, l'opération Mayotte Place Net a commencé ce matin. Et puis dans le long format de ce soir, focus sur le Soudan, ça fait un an que la guerre a commencé. Une guerre oubliée, un dossier signé Suzanne Marion en fin d'édition. C'était la deuxième étape du cycle mémoriel d'Emmanuel Macron pour les 80 ans de la Libération. Après le plateau des Glières et la maison d'Izieux au début du mois, le président de la République était aujourd'hui dans le Vercors pour rendre hommage aux maquisards. Vassieux, le petit village de montagne drômoise, a été entièrement détruit il y a tout juste 80 ans. Le 16 avril 1944, des résistants cachés y ont été massacrés par les nazis. Emmanuel Macron est le premier président à visiter officiellement cette nécropole. Sur place, la correspondance de Marie Lidov de RCF Drôme-Ardèche.
Et je suis arrivée sur place vers 13h30 avant le début des commémorations. J'ai donc pu assister aux répétitions de dernière minute. Avant l'arrivée d'Emmanuel Macron, quelques hommages ont eu lieu. Des enfants notamment ont lu des textes sur l'histoire d'habitants de Vassieux-en-Vercors ayant vécu la résistance et le massacre du 16 avril 1944. Le président est arrivé un peu après 15h pour une première cérémonie à la nécropole nationale de la résistance à l'entrée du village. Cérémonie accessible sur invitation seulement. Le public a pu la suivre sur un écran géant situé à côté du martyrologe de Vassieux. Monument à la mémoire des morts de la Seconde Guerre mondiale de la commune. Ils étaient environ 400 malgré le vent glacial, des habitants, des élus, des membres d'associations, d'anciens combattants ou encore des jeunes du service national universel. C'est au pied du martyrologe qu'Emmanuel Macron s'est ensuite rendu pour une cérémonie d'hommage aux maquisards. Il a cette occasion prononcé un discours durant lequel il a salué leur courage et décrit Vassieux-en-Vercors comme une petite France libre. Le président de la République y a ensuite pris le temps de rencontrer des élus locaux et les habitants de Vassieux avant de repartir pour Paris vers 17h30.
Les 5, 6 et 7 juin prochains, le président rendra hommage au sacrifice des victimes civiles de la ville de Saint-Lô dans la Manche, puis à Tulle en Corrèze et à Oradour-sur-Glane en Haute-Vienne, théâtre des crimes nazis. Emmanuel Macron a également encouragé l'organisation de milliers d'événements locaux. À la page mémorielle, la Russie sera invitée aux célébrations du 80e anniversaire du débarquement allié en Normandie début juin, mais pas son président Vladimir Poutine en raison de la guerre d'agression russe en Ukraine. C'est la mission Libération chargée d'organiser cette commémoration qui l'a annoncée aujourd'hui. À la page finance, les actionnaires du constructeur automobile Stellantis ont validé à 70% des voix la rémunération du directeur général du groupe Carlos Tavares, qui pourra atteindre 36 millions d'euros pour l'année 2023. Cette rémunération, qui comprend une prime et des bonus attribués seulement si certains objectifs sont remplis d'ici à 2025, a suscité la controverse en France, où les salaires des grands patrons restent globalement loin de ces sommets. Une image qui rappelle tristement l'incendie de Notre-Dame de Paris. La vieille bourse de Copenhague au Danemark a été ravagée par un feu aujourd'hui. Comme pour Notre-Dame, il y a tout juste 5 ans, la flèche de l'édifice à 54 mètres de haut s'est effondrée devant les Danois. Choqués et impuissants, le bâtiment abritait une vaste collection d'œuvres d'art et était en cours de rénovation pour célébrer ses 4 siècles d'existence. Le ministère de l'Intérieur a lancé ce matin son tout nouveau plan pour lutter contre l'immigration illégale à Mayotte. Un an après le début de la première opération Wambushu, l'objectif de Mayotte Place Net reste le même, lutter contre l'immigration illégale, l'insécurité et le logement insalubre. D'après la ministre déléguée chargée des Outre-mer, Marie Guévenoux, l'opération qui a démarré ce matin, doit durer 11 semaines. Pour le député LR de Mayotte, Mansour Kamardine, la priorité est d'abord d'arrêter les flux migratoires en l'écoute.
Moi, je suis heureux qu'effectivement le gouvernement se soit décidé à reprendre le travail qui était inachevé l'année dernière, avec l'espoir que cette fois-ci, il ira au bout de sa peine et qu'il réussira à assurer la sécurité des personnes et des biens sur ce territoire pour que nous puissions retrouver une vie normale. Il faut que l'État se remette en cause à Mayotte dans les politiques publiques qu'il développe. Aussi longtemps qu'on continuera à scolariser tous les enfants qui viennent, indistinctement et sans condition, aussi longtemps que nous continuerons à soigner gratuitement tous ceux qui viennent et sans condition. Bref, aussi longtemps que nous continuerons à régulariser les gens et à les loger dans des cases mieux dotées que les cases mahoraises traditionnelles. En réalité, par nos politiques publiques, nous alimentons le flux migratoire. On a l'impression d'avoir un État qui est un peu schizophrénique.
L'an dernier, la première opération avait contribué à l'expulsion de 25 000 étrangers en situation irrégulière. 592 passeurs avaient été interpellés. C'est l'image du jour. À 101 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024, la flamme olympique a été allumée aujourd'hui à Olympie en Grèce, devant les ruines vieilles de 2600 ans du temple d'Héra. Le relais de la flamme a débuté avec le champion grec Stéphanos Noutskos, qui l'a transmise à la nageuse française Laure Manaudou. On en vient à notre grand format du soir avec vous, Suzanne Marion. Bonsoir.
Bonsoir Étienne, bonsoir à tous.
Ça fait maintenant un an et un jour que la guerre a éclaté au Soudan, une guerre dont on entend peu parler, une guerre un peu oubliée dans les pays occidentaux qui passe sous les radars. Pourtant, elle a déclenché une crise humanitaire sans précédent, Suzanne.
Oui, l'ONU parle même d'une des crises humanitaires et de déplacement de population les plus importantes au monde. Il y a près de 9 millions de déplacés, dont 1,8 à l'étranger, et des dizaines de milliers de morts.
Alors Suzanne, pour commencer, pour bien comprendre, est-ce que vous pouvez nous rappeler où se trouve exactement le Soudan?
Alors le Soudan, c'est au sud de la Libye et de l'Égypte. Le pays se trouve aux portes du Sahel. Il a une large côte sur la mer Rouge, en face de l'Arabie Saoudite. Le Soudan, c'est le deuxième pays le plus grand d'Afrique. Il représente 3 fois la France. Pour comprendre la situation sur place, je vous propose d'écouter le témoignage de Claire Nicolet. Elle est responsable de la mission Urgence Soudan de Médecins sans frontières et elle s'est rendue dans la région du Darfour, à l'ouest du pays, le mois dernier.
Des affrontements réguliers, donc il y a des bruits de balles, il y a des frappes aériennes, donc une situation vraiment précaire au niveau de la sécurité. Et puis un très très grand nombre de déplacés qui malheureusement aujourd'hui n'ont pas de quoi vivre décemment, peu d'accès à l'eau, pas de nourriture distribuée depuis des mois et des mois, puisqu'en fait ils sont complètement isolés par rapport au fait que les routes soient coupées en fait pour aller d'un côté du pays à l'autre du pays. Donc c'est vrai que c'est une situation qui est assez dramatique, tant au niveau des déplacés, mais au niveau de la population bien sûr aussi qui habite dans ces régions.
Le Darfour, mais aussi le Tchad voisin, accueille des millions de réfugiés dans des situations précaires. Mais une partie de la population n'arrive même pas à fuir les zones de guerre, comme à Khartoum, la capitale à l'est du pays. C'est ce qu'a observé Claire Nicolet.
On voit encore des nouvelles arrivées dans les camps de déplacés, donc à l'intérieur du Soudan, de gens qui sont restés coincés dans des villes pendant des mois et des mois. Et puis, de la même façon, à Khartoum, vous avez une population qui est complètement encerclée, enfermée, depuis plus de 6 mois aujourd'hui, et qui ne peut pas se déplacer, ou s'ils se déplacent, se font arrêter, se font questionner sur pourquoi vous étiez encore à Khartoum, qu'est-ce que vous faisiez là-bas. Pour l'armée régulière, comme on parle de zones qui sont sous les RSF, ils sont questionnés pour savoir qu'est-ce qui a fait que vous ayez pas fui au moment où les forces de soutien rapide ont pris une grande partie de la ville. Donc après, ils sont vus comme des potentiels alliés des forces de soutien rapide. Donc c'est effectivement extrêmement difficile aujourd'hui pour les populations soudanaises, soit de vivre correctement, évidemment, pour la majorité, soit même de fuir les zones de combat.
Et le travail des ONG est presque impossible à cause de la difficulté à se déplacer et le peu de visas accordés aux humanitaires. S'ajoute le manque de financement de l'aide et enfin l'accès aux soins qui n'existe presque plus. Environ 70% des hôpitaux ne fonctionnent plus.
Et la situation est terrible, on l'a compris. Mais alors Suzanne, pourquoi cette guerre a éclaté?
Les raisons remontent à 2019 et la révolution qui a fait tomber le dictateur Omar el-Béchir. Une révolution civile, victorieuse, mais qui n'a pas débouché sur une démocratie. C'est l'armée qui a repris le pouvoir avec un coup d'État en 2021. Et il y a un an, la guerre a éclaté entre le général Abdel Fattah al-Burhan de l'armée régulière et le général Emeti qui dirige les forces de soutien rapide. C'est une branche de l'armée qui intervient surtout dans les zones rurales. Aujourd'hui, le conflit s'enlise car aucun des deux camps n'arrive à prendre le dessus. Écoutez les explications de Marc Lavergne, directeur de recherche au CNRS et professeur à l'Université de Tours.
Les forces sont assez équilibrées puisque d'un côté on a une armée avec des tanks, avec des avions, avec des casernes, avec tout un système de ravitaillement. Et donc cette armée elle est puissante, elle a des bases dans tout le pays. Et puis d'un autre côté on a des forces supplétives qui sont issues d'une province éloignée, le Darfour. Comme ils sont venus aider l'État pour maintenir la paix et la sécurité dans cette province, ils sont armés, ils sont riches et ils sont soutenus par des pays étrangers. Ces forces de soutien rapide comme on les appelle sont sorties de leur province où ils s'aiment sème la terreur, vers la capitale. Et ils ont réussi à occuper au départ les trois quarts de cette immense capitale, hein, qui fait 8 à 10 millions d'habitants. Et l'armée a mis du temps pour récupérer le terrain. Donc actuellement, il y a un rééquilibrage qui se fait dans l'ensemble du Soudan, mais c'est encore ces forces de soutien rapide qui, malgré les avions qui les bombardent, ils arrivent à résister et à se répandre et surtout à enrôler des jeunes.
Comme on vient de l'entendre, alors qu'on parle peu de ce conflit, il y a pourtant des puissances étrangères impliquées. Certains pays financent cette guerre ou fournissent des armes.
Et pourquoi ces pays s'impliquent ?
Déjà parce que le Soudan a une position géopolitique stratégique, mais aussi parce qu'il a de nombreuses richesses naturelles. Écoutez l'analyse de Raphaël Chevrillon-Guibert, elle est chercheuse à l'Institut de recherche pour le développement.
On sait qu'en termes d'activité économique, c'est l'exploitation de l'or qui va nourrir beaucoup le conflit. L'armée, comme les RSF, sont très impliquées dans cette exploitation. La filière côté armée, ça va être beaucoup en Égypte. Depuis un an, les réserves d'or de la Banque centrale égyptienne ont explosé. De l'autre côté, on sait que les Émirats arabes unis, qui en plus sont, on va dire, la plaque tournante de l'or sahélien, soutiennent activement les RSF. Pour les Russes, on sait qu'ils avaient misé depuis longtemps sur le Soudan, c'est des rapports historiques, et puis du coup, vous aviez en gros débit mis un peu des deux côtés, différents types d'engagements avant même le début de cette guerre, bien sûr, c'est à la fois des liens directement étatiques ou des entreprises privées qui ont obtenu des licences, notamment sur l'or. Vous avez même le groupe paramilitaire Wagner qui est très connu pour son appétit pour l'or dans la région sahélienne qui est aussi engagé.
Mais Suzanne, si on entend peu parler de ce conflit, c'est aussi parce qu'on a peu d'informations.
Notamment au niveau du nombre de morts qu'a fait la guerre en un an, il n'y a pas vraiment de bilan. Certains massacres sont racontés parfois des mois plus tard par des réfugiés qui arrivent au Tchad. Les seules informations que l'on a sont donc les alertes faites par l'ONU et les ONG. On a parlé au début de ce dossier des 9 millions de déplacés, mais il y a aussi le risque de famine. Un Soudanais sur trois y est confronté. C'est pourquoi les organisations humanitaires appellent à un sursaut de la communauté internationale. La conférence pour le Soudan qui s'est tenue à Paris hier est un pas dans cette direction. En clôture de la conférence, une aide humanitaire de plus de 2 milliards d'euros a été promise pour le Soudan.
Voilà, c'est un dossier signé Suzanne Marion. Le prochain dossier de la rédaction, vous l'entendrez demain matin à 7h15 dans la matinale de Pierre-Hugues Dubois. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite de passer une excellente soirée à l'écoute des programmes de RCF. Le prochain rendez-vous avec l'info, ce sera donc demain avec Lucie Rispal dans la matinale de Pierre-Hugues Dubois. Je vous souhaite de passer une excellente soirée à l'écoute des programmes de RCF.